France Culture.
Face à la montée des menaces, face au retrait progressif des États-Unis, le constat qui sera adressé au Conseil européen débutant demain à Bruxelles sera, on l'imagine, sans appel. L'Europe doit repenser sa défense, augmenter les dépenses, relancer l'industrie, améliorer la coopération militaire, autant de défis pour bâtir une autonomie stratégique crédible. Mais si la ligne d'horizon paraît nette, comment s'en approcher donc? Comment se réarmer? Comment créer les conditions de notre autonomie militaire? Pour en débattre, deux invités. Ce soir, le général Vincent Desportes. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes général de l'armée de terre, vous êtes ancien directeur de l'école de guerre. Face à vous, Gesine Weber. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse en sécurité et défense au think tank indépendant The German Marshall Fund of the United States à Paris. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Je n'aurais jamais pensé devoir dire quelque chose comme ça, mais après les récentes déclarations de Donald Trump, il est clair que son gouvernement ne se préoccupe pas du sort de l'Europe.
Si l'Europe veut survivre, elle doit être armée. Nous n'avons pas le choix. Je ne suis pas militariste, mais la Pologne est l'endroit du monde où personne ne voudrait voir une guerre survenir à nouveau.
J'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées.
L'Europe est prête à assumer ses responsabilités. Réarmer l'Europe pourrait mobiliser près de 800 milliards d'euros pour sa défense et pour une Europe sûre et résiliente. For a safe and resilient Europe.
Première question, pourquoi se réarmer, mon général Vincent Desportes? François-Xavier Bellamy, qui était invité ce matin sur France Inter, hein, il est eurodéputé, vice-président des Républicains, disait que ce n'était d'abord et avant tout un enjeu de souveraineté, bien plus que de sécurité, puisque le risque n'était pas à nos portes.
Alors, les deux sont vrais. C'est un enjeu de souveraineté, bien sûr, mais c'est un enjeu de sécurité, parce que si, le risque est à nos portes et on ne peut pas dire le contraire aujourd'hui. Le pire n'est pas sûr, mais il est plus que possible, il est presque probable. Que serait le pire aujourd'hui? C'est que l'Ukraine soit abandonnée à son sort par les Américains, à un moment donné où l'Europe n'est pas véritablement capable de pallier ce départ. Si l'Ukraine est livrée à son sort, il n'est pas impossible que les armées russes aillent jusqu'à la frontière roumaine, jusqu'à la frontière polonaise. Nous serions donc à ce moment-là en première ligne. Tous les services de renseignement de l'Alliance Atlantique, mais allemands, etc., disent qu'il faudra peut-être 3 ans à l'armée russe pour se refaire, se reconstruire et être capable d'aller plus loin. Tout les services d'enseignement disent qu'elle tentera de le faire, pas forcément vers la Pologne ou la Roumanie, mais vers les points faibles qui sont, on le sait, la Moldavie et les États baltes. Et ce sera une première étape, avec peut-être d'autres. Donc, il faut empêcher que ça se passe, et ça ne se passera pas si nous sommes capables d'afficher une grande détermination. Et cette détermination, elle passera par la capacité de l'Europe à se défendre seule, si les Américains lâchent l'Europe face à cette menace. Poutine ne s'arrêtera que face à un mur de détermination, il faut le créer maintenant.
Gesine Weber, vous êtes sur la même ligne. Dans le fond, est-ce que vous caractérisez vous-même cette menace de la même façon, avec les mêmes termes et aux mêmes échéances?
Oui, j'ajouterais juste un élément sur cela, qui est peut-être pas seulement que le risque est à nos portes, mais que le risque, si vous voulez rester sur cette métaphore, est déjà dans notre maison. Nous savons que la Russie mène depuis des années une guerre hybride contre l'Europe. On l'a vu par exemple avec les attaques contre les opposants russes sur le sol européen. On le voit avec l'ingérence. Et tout cela, ce sont des attaques hybrides contre les sociétés européennes. Donc je pense que c'est très important d'ajouter cet élément. Donc évidemment, il y a un risque comme a mentionné par le général, une dimension d'une guerre conventionnelle qui pourrait en effet arriver sur le sol européen à un moment. Mais la défense européenne inclut aussi aujourd'hui des éléments beaucoup plus hybrides et dans d'autres domaines.
Mais vous êtes d'accord avec ce raisonnement que l'on entend par ailleurs énormément, il faut se réarmer vite et massivement pour empêcher la guerre. Hein. C'est ce que disait par ailleurs le chef de l'OTAN qui appelait l'Europe à un sursaut pour éviter, je cite, une grande guerre. Ce raisonnement-là vous paraît convaincant ?
Oui, je suis complètement d'accord parce que c'est tout à fait l'idée de la dissuasion. Donc, évidemment, je pense que les Européens ont fait des tentatives pour construire un ordre de sécurité avec la Russie. Ils étaient extrêmement aveugles en ce qui concerne la stratégie de la Russie et la vision qu'a la Russie pour cet ordre de sécurité qui était l'invasion d'un pays souverain, d'ailleurs déjà en 2014. Mm-hmm. Et pour éviter que Vladimir Poutine ne poursuive ce schéma, évidemment, ou apparemment, c'est que le langage de la force qu'il comprend.
Mon général Vincent Desportes, l'autre menace d'une autre nature, certes, c'est évidemment le retrait, le recul américain en matière militaire de leurs investissements en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe est fondamentalement dépendante des États-Unis ? Et est-ce qu'il faut distinguer dans ce domaine l'Europe de la France ? Est-ce que la France l'est aussi ?
L'Europe est fondamentalement dépendante aujourd'hui de la défense des États-Unis. Je vais vous expliquer pourquoi en une minute. Ce que on ne comprend pas toujours, c'est que les armées nationales sont des armées cohérentes entre elles. Mais qu'une armée, pour la taille de l'Europe, de 500 ou 600 000 hommes, ça n'est pas une addition d'armées, c'est des armées qui sont capables de combattre ensemble. Or, ce qui donne aujourd'hui cette capacité, ce sont les États-Unis. Dire que l'OTAN aujourd'hui, ce sont des armées nationales qui sont pluguées dans une espèce de grande colonne vertébrale qui est américaine. Quand elle part, cette colonne vertébrale, nous ne sommes plus capables de combattre. Qu'est-ce que c'est que cette colonne vertébrale ? C'est les moyens de commandement. Nous ne pouvons pas commander une opération au niveau européen avec les simples moyens européens. Nous ne pouvons pas planifier d'opérations au niveau européen. Le renseignement de l'OTAN, c'est un renseignement qui est à 90% américain. Les télécommunications de l'OTAN sont des télécommunications qui, à 90%, sont européennes. Le feu dans la profondeur de l'OTAN, c'est du feu HIMARS, attaque MS, c'est du feu qui est américain. La capacité de ravitaillement en vol est massivement américaine. Nous pouvons, évidemment, nous Français, par exemple, ravitailler nos propres rafales capables de porter le feu nucléaire. Mais nous ne sommes pas capables, et aucun ensemble, les pays européens ne sont pas capables de maintenir en l'air les avions qui seraient capables, eux, de conduire une campagne entière. Je pourrais en rajouter beaucoup.
Alors ce que vous dites, c'est vrai pour l'Europe. Est-ce que c'est vrai aussi pour la France ? On dit souvent que la France a une armée échantillon, entre guillemets, que la France a toutes les capacités encore viables et effectives, que l'armée française a également, j'allais dire, qu'elle peut être sur terre, sur mer et dans les airs d'une manière efficace. Est-ce que c'est vrai là aussi ?
Mais c'est particulièrement vrai. Mais qu'est-ce que c'est que l'armée française ? C'est l'armée qu'a voulu le peuple français. Le peuple français a dit aux armées, on donne un contrat opérationnel aux armées. L'armée française le remplit. On lui a dit, vous êtes capable de projeter 15 000 hommes et de les entretenir sur le terrain et vous devez avoir tous les moyens pour le faire. Et nous les avons. Et donc nous pouvons projeter 15 000 hommes effectivement. Mais l'armée française est cohérente par tous les moyens, du nucléaire au fantassin. Mais c'est la France. Oui. Là, on parle pas de la France, on parle de l'Europe. On a dit aussi, et c'est juste, que l'armée française pourrait tenir un front de 80 km sur le front de l'Ukraine actuelle qui en compte 1200. Mmh. Donc le problème n'est pas français, c'est un problème européen. Et il faut que cette cohérence française, elle soit établie au niveau européen, ce qui suppose des moyens européens et très largement supérieurs aux moyens dont dispose la France.
Gesine Weber, cette dépendance de l'armée, des armées plutôt européennes à l'égard des États-Unis, vous la caractérisez là aussi de la même façon ?
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est aussi extrêmement important d'ajouter un élément stratégique à cela, parce que cette idée d'un retrait américain de l'ordre de sécurité européen touche pas seulement les questions purement militaires, comme élaborées par le général, mais également aussi les questions stratégiques. Au cours des décennies, les US ont en quelque sorte mis à disposition toutes les idées stratégiques de doctrine et tout ça à l'OTAN. Si les États-Unis se décident à ne plus le fournir, il faut toute une nouvelle réflexion européenne sur comment défendre l'Europe. Et on n'est absolument pas là au niveau européen.
Est-ce qu'on a eu raison dans les années 90, dans les années 2000, Vincent Desportes? Est-ce qu'on a eu raison, du point de vue européen, de diminuer nos budgets militaires? C'est vrai que l'horizon, c'était peut-être la paix. On récoltait les fameux dividendes de la paix. Est-ce qu'on avait raison ou déjà les militaires alertaient? Déjà, on était en train de se tromper et on pouvait le comprendre dans ces années 90-2000?
Alors, il y a eu une époque où on a cru que la guerre était morte parce qu'on l'avait tuée en Europe et parce que la grande menace, qui était celle du pacte de Varsovie, était tombée. Donc il y a eu un moment où on s'est dit on peut diminuer l'effort de défense. Mais assez rapidement, les gens qui pensaient à la guerre et qui pensaient la guerre se sont bien rendus compte que c'est pas parce qu'on avait tué la guerre en Europe qu'on l'avait tuée ailleurs. Et oui, de nombreuses voix se sont élevées, dont la mienne très modestement, pour dire attention, vous allez nous mettre en danger. Et vous allez nous mettre en danger d'autant plus que plus vous diminuez votre effort de défense, plus vous vassalisez par rapport aux Américains. Alors on a dit, mais pas de problème, vous savez, le soutien, le support américain, c'est une donnée divine, on en a encore pour des millénaires. Donc ne nous embêtez pas, nous n'avons pas besoin d'être autonomes. Alors la France, vous le savez, moins que d'autres l'a fait, parce que le général de Gaulle a mis quelque chose en nous qui nous fait penser que nous devons être autonomes. Et donc, nous sommes devenus de plus en plus vassaux vis-à-vis des Américains. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait, le grand reproche qu'on peut faire aux Américains. Les Américains ont organisé notre vassalité. Ne nous trompons pas. Ils l'ont organisé.
Et eux disent qu'on en a profité de la situation.
Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Mais allez voir ce que disait Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État de Bill Clinton. Elle voulait empêcher le découplage. C'était notre tentation. Quand le pacte de Varsovie a disparu, que l'URSS a disparu, c'était de nous rapprocher de la Russie. Et on aurait dû le faire à ce moment-là, évidemment. Mais on ne l'a pas fait parce que les Américains s'y sont opposés. Et pour s'y opposer, ils ont cherché à avoir une politique de ce qu'ils ont appelé de non-découplage. Il ne faut pas que l'Europe parte. Et pour que l'Europe ne parte pas, nous avons reçu l'interdiction formelle de ne pas prendre à notre compte les armements qui étaient déjà, les armements de cohérence opérationnelle que j'ai cités, qui étaient fournis par les Américains. Donc à la fois, mais c'est leur double langage, on n'est pas très surpris, c'est à la fois ils organisent notre vassalité et ils nous reprochent d'être trop vassaux. C'est les deux à la fois.
Quel est l'intérêt, Gesine Weber, pour les Américains d'organiser cette dépendance européenne en matière militaire? Ça leur coûte extrêmement cher aux États-Unis depuis tant d'années.
Oui, tout à fait, mais tout cela était extrêmement cohérent aussi avec la stratégie américaine en général dans le monde. Parce que dans cette stratégie, les alliances ont toujours pris une place centrale. Et une alliance, si vous êtes la puissance la plus importante au sein d'une alliance, vous donne énormément de levier sur d'autres alliés. Et c'était aussi le cas, par exemple, dans l'OTAN. Donc, c'était toujours clair pour les Européens, si les États-Unis imposent le rythme, les Européens vont suivre. Et d'ailleurs, le leadership américain au sein de l'OTAN a aussi très souvent pu faire les Européens surmonter les fractions politiques, parce que c'était clair que le leadership de la part de Washington était tellement importante qu'on allait plutôt passer à côté de quelques détails politiques européens et suivre Washington.
Mon général Vincent Desportes, vous avez levé la main.
J'ai levé la main parce que pourquoi est-ce que les Européens ont supporté pendant des décennies l'extraterritorialité du droit américain? Pourquoi avons-nous supporté de se faire imposer des règles commerciales?
On avait le choix?
Non, on n'avait pas le choix. Parce que nous étions dépendants. Et que c'était un donnant-donnant. Mais vient le problème maintenant. Il y a une pensée politique qui commence à se réaffirmer aux États-Unis. C'est la pensée de Paul Kennedy, qui a une vingtaine d'années maintenant, qui écrit un grand livre qui s'appelle Grandeur et décadence des grandes puissances. Et là-dedans, il explique que un empire s'étend beaucoup et qu'à la fin, il tombe. Et il cite évidemment l'Empire grec qui va tomber de s'être trop étendu. Et l'Amérique maintenant comprend qu'elle s'est peut-être trop engagée vis-à-vis d'un certain nombre de parties prenantes extérieures et qu'il faut se resserrer. Et peut-être que cette idée fondamentale de laisser l'Europe à elle-même, de dire débrouillez-vous maintenant, est une conséquence de ça. La Rand Corporation, qui est le plus grand think tank américain qui sert la défense, dit au fond, vous ne pouvez plus avoir en même temps le théâtre pacifique et le théâtre européen Il faut choisir. Alors, je ne sais pas comment tout ça s'est rentré dans la tête de Trump, mais c'est assez cohérent.
C'était déjà le cas sous Obama. Obama avait déjà opéré cette transformation et ce pivot américain.
Exactement, c'est même le premier. Vous connaissez bien Attali qui dit tout le temps, depuis Obama, il dit, nous sommes seuls. Nous, les Européens, nous sommes seuls. Mais on ne l'a pas compris. Alors qu'effectivement, les signes étaient clairs. Donc, je crois qu'au-delà de la crise ukrainienne, qui est une crise évidemment fondatrice, il faut absolument, il était dit ce matin, il faut trouver notre souveraineté. Nous avons l'âge d'être adultes.
Gesine Weber.
Oui, je pense que vous avez mentionné un élément extrêmement important, mon général, qui est les signes étaient clairs. Mais les Européens les ont ignorés royalement. Donc, au cours des années, et je pense surtout depuis 2017, quand le président Macron a vraiment mis l'idée de l'autonomie stratégique au cœur de son agenda européen, les Européens étaient conscients de l'existence de l'idée de l'autonomie stratégique, de la possibilité de renforcer la défense européenne. Mais comme il y a eu énormément de pays européens qui se sont vraiment reposés sur l'idée que les États-Unis seront toujours là, quoi que se passe en Indo-Pacifique, ils n'ont absolument pas eu la volonté politique procéder à un armement de l'Europe ou aussi à une évolution d'une stratégie proprement européenne, parce qu'on s'est juste donné l'illusion que les États-Unis seraient, quoi qu'il se passe, toujours un partenaire fiable. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas forcément le cas.
Alors, je voudrais qu'on aborde la question désormais du réarmement et comment organiser ce réarmement européen. En me plongeant dans cette émission et en me plongeant dans les sujets, il m'est apparu que le premier défi, c'était sans doute la coordination des différentes économies et à double titre. Une coordination pour tenter justement de faire des économies, hein, puisque les chiffres expliquent qu'une meilleure coordination permettrait d'économiser entre 72 et 57 milliards d'euros par an, c'est le premier point. Et une coordination pour tenter d'organiser par ailleurs l'interopérabilité des différentes armées nationales. Mon général Vincent Desportes, est-ce que vous êtes d'accord déjà sur l'interopérabilité? Est-ce que les armées européennes nationales sont capables aujourd'hui de fonctionner ensemble?
Alors là, la réponse est oui, parce que l'OTAN, on n'a pas eu des vertus.
C'est parce qu'on lit partout, hein.
Oui, eh bien, parce qu'on lit mal. Mais l'OTAN, on a...
C'est mal écrit, je sais pas.
Voilà, l'OTAN n'a pas toutes les vertus, mais l'OTAN, c'est une machine à normer. Ça a été une machine à normer, d'ailleurs une norme américaine. Et s'il y a quelque chose que les armées savent bien faire, c'est se comprendre, avoir les mêmes calibres de munitions, avoir une façon... On est bien d'accord sur la défense de l'Europe, on n'a pas vraiment réfléchi comment on peut le faire sans les Américains, mais on a une façon de combattre ensemble, de la doctrine qui sont extrêmement compatibles. Donc, oui, nous sommes interopérables. Ce qui rend difficile cette interopérabilité, c'est, et vous l'avez dit, c'est la multiplication et la diversité de nos matériels qui correspond au fait que l'Europe n'est pas une nation, elle est même pas une fédération, elle est des nations juxtaposées.
C'est divers, mais ça marche ensemble? Ça fonctionne ensemble?
Oui, ça fonctionne ensemble. Alors, mais ce que ça rend compliqué, par exemple...
Je peux mettre un obus français dans un canon italien.
Bien sûr, vous pouvez le faire. C'est ça qui est important. Mais alors, ce que vous ne pouvez pas faire, par contre, c'est les pièces détachées. Hein, les pièces détachées, et c'est pour ça que le problème du soutien, maintenant, revient assez régulièrement. Les pièces détachées, il faut des chaînes de soutien pour chacun des matériels. On rappelait récemment que nous avions livré à l'Ukraine 10 types d'obusiers différents. 10 types d'obusiers différents. Et je ne sais pas combien de types de chars. Voilà, des types d'avions, au moins deux, les Mirage français et les F-16. Mais derrière, il faut toute une chaîne logistique, si vous voulez. Donc, on sait combattre ensemble, mais il est sûr que ce manque, non pas d'interopérabilité, mais de manque de cohérence ou d'uniformité plutôt, fait que ça rend les choses plus compliquées. Et il est évident qu'il faudra faire très vite un effort dans ce domaine-là. Effort qui est quand même rendu compliqué parce que ce sont des intérêts capitalistiques qui sont en jeu.
Sur cette diversité, je cite le rapport Draghi, et donc Mario Draghi lui-même, il écrivait « Pour l'artillerie de 155 mm, les membres de l'Union européenne ont fourni à l'Ukraine 10 types d'obusiers provenant de leur stock, ce qui a créé de sérieuses difficultés logistiques pour ses forces armées. » C'est une forme de dysfonctionnement là dans l'interopérabilité ou c'est autre chose, Gesine?
Donc je pense que c'est à la fois un problème d'interopérabilité, mais c'est surtout aussi un problème structurel de la défense européenne, parce que ça démontre qu'on a, au cours des dernières ou des décennies, négligé par exemple l'acquisition des systèmes communs et aussi vraiment la construction d'une seule base industrielle européenne. Évidemment, c'est absolument remarquable comme les pays européens se sont mobilisés pour soutenir l'Ukraine, mais cela a vraiment aussi mis en avant les lacunes à la fois, mais aussi la masse de différents systèmes. Et une chose qui est aussi très clairement reflétée dans les rapports Draghi ou Letta, c'est l'extrême inefficacité de la défense européenne en ce qui concerne, par exemple, l'acquisition des systèmes. Parce que les Européens, en général, perdent entre 17 et 58 milliards d'euros par an quand ils cherchent pas forcément à acquérir des systèmes européens ou quand ils font des doublons et tout ça. Et ce serait quand même de l'argent qui serait bien investi autre part.
Vous parlez d'argent justement, alors parlons d'argent, soyons vulgaires. En 2024, les États membres ont atteint un investissement record en matière militaire de 326 milliards d'euros. Mais les dernières estimations indiquent qu'au moins 500 milliards seraient nécessaires pour combler les lacunes critiques des capacités de l'Union européenne dans ce domaine. Est-ce que vous semble, Vincent Desportes, qu'au vu des déclarations, des récentes déclarations, notamment de la Commission européenne, on est sur le bon chemin, on approche de ces montants?
Alors, ne nous trompons pas. Vous savez bien que les 800 milliards de Mme von der Leyen, c'est un peu de l'argent magique. Hein, on vous donne 800 milliards, mais en fait, il est dans votre poche, sauf 150 millions.
Qu'on se rende compte, pour qu'on mesure les choses, hein, les États-Unis, c'est un investissement par an environ de 900 milliards, hein, toute proportion gardée.
Et vous avez raison, vous avez raison. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la Russie, c'est moins de 300, si vous voulez. C'est moins de 300. Et donc là, on revient à la question de Tusk, que je pose quand même, parce qu'il est fondamental, il est fondamental. Le Premier ministre Tusk, polonais, dit « Comment se fait-il que 500 millions d'Européens demandent à 300 millions d'Américains de les défendre contre 140 milliards de Russes ?» Et on peut rajouter le PIB de la Russie étant 10 fois inférieur au PIB de l'Europe. Donc on voit bien que c'est un problème de volonté et d'organisation. Pour arriver à remplacer en finance l'aide américaine, les chiffres sont, ça coûterait 0,12% du PIB de l'Europe. Donc on voit bien que c'est tout à fait possible. C'est pas véritablement une affaire de finance, c'est une affaire de volonté et d'organisations qui se heurtent aussi à des problèmes nationaux. Le problème français, vous le connaissez, nous sommes déjà largement endettés. Il va falloir trouver l'argent quelque part.
Gesine Weber, est-ce que l'Allemagne et la révolution culturelle qui est en train de s'opérer en Allemagne, notamment sur les questions budgétaires, vous rend optimiste sur les investissements européens à venir en matière militaire ?
Oui et non. Donc, pour revenir sur ce que vous appelez la révolution allemande sur les dépenses, je pense...
Je précise que ça vous fait sourire, ce terme.
Oui, tout à fait. Parce qu'à la fois, il faut savoir que dans le paquet d'investissement qui a été décidé, il ne s'agit pas exclusivement des dépenses pour la défense, mais aussi, par exemple, pour les infrastructures et pour d'autres projets d'intérêt national. Donc, c'est pas seulement la défense. Ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne aussi permet l'exonération des dépenses de défense qui vont au-delà d'1% du PIB. Et à mon avis, c'est ça la véritable révolution. Mais de l'autre côté, tout cela est aussi prévu dans le plan ReArm Europe, le plan que vous venez de citer. Et je pense que c'est extrêmement important de préciser dans ce contexte que les 800 milliards, qui sont très souvent pris comme 800 milliards purs et parfaits, sont composés de 150 milliards de crédits qui seront donnés aux États membres, et ensuite 650 milliards qui pourraient être dépensés par l'exonération des dépenses de défense par les règles des crédits de l'Union européenne. Donc, il faut savoir qu'ils ne sont pas du tout dépensés aujourd'hui. Ça peut venir, mais à la fin, ça dépend de la volonté. Et pour revenir sur cette idée d'une révolution dans la pensée stratégique allemande, je pense que c'est extrêmement important qu'on voit que ce discours et ce débat a vraiment été lancé par Friedrich Merz, le probable futur chancelier, quand il parle de l'importance de l'indépendance de l'Europe, de la garantie ou des États-Unis en ou a vu le risque de l'abandon par les États-Unis.
Je me suis engagé à vous laisser partir à 18h47-48, mon général Vincent Desportes. Alors, une dernière question, je voudrais qu'on précise avec vous les relatives dépendances de l'Union européenne à l'égard des États-Unis. On n'est pas dépendant de la même façon lorsqu'on parle de naval, d'aérien ou de drone. L'Europe est particulièrement dépendante vis-à-vis des États-Unis sur certains sujets très ciblés, dans le fond, qu'il faut savoir caractériser et hiérarchiser.
Vous avez raison. Alors, j'ai essayé de dire un peu tout à l'heure, mais on a les moyens de commandement. Nous n'avons pas d'état-major capable de commander une opération européenne. D'ailleurs, quand on a fait une opération franco-britannique qui était stupide par ailleurs en Libye, on a demandé à un état-major de l'OTAN qui était capable de la commander. Le renseignement est prioritaire. Nous avons très peu de satellites militaires. Les Américains en ont 247. Les Européens, je ne sais pas trop, peut-être que madame le sait mieux que moi, mais c'est peut-être une vingtaine. Donc on n'est pas capable, par exemple, de suppléer tout de suite, là, si les Américains referment le renseignement, on n'est pas capable de donner la même qualité de renseignement aux Ukrainiens. Les transmissions, chez nous, c'est Starlink. Ben, Starlink, c'est pas tellement français, mm-hmm. comme vous le savez. Et puis, je vous l'ai dit, la projection, le ravitaillement, les drones, on est en train de faire un effort. L'alerte avancée, par exemple, pour l'instant, qui repose sur le système Aegis, mais qui suppose des satellites américains. Même si on a des radars, il faut les satellites américains. Et donc, on a vraiment beaucoup de dépendance. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un peu de temps stratégique, parce qu'on disait en début d'émission qu'il n'y a pas beaucoup de chance quand même que la Russie continue dans la foulée pour tenter d'aller jusqu'à Vilnius, parce que ce n'est pas possible. Et donc, on a 2 ou 3 ans, peut-être 3 ou 4 ans pour nous mettre en ordre de marche, d'où l'intérêt d'organiser ça, de bien voir les points cruciaux, hein, pour que nous puissions constituer, sans les Américains, parce que l'hypothèse ne doit pas être rejetée, constituer sans les Américains une menace suffisamment crédible pour que Poutine ne se lance pas dans une autre démarche d'attaque mortifère vers les pays européens.
Merci beaucoup Vincent Desportes d'être venu à Question du Soir malgré vos obligations. Je rappelle que vous êtes général de l'armée de terre, ancien directeur de l'école de guerre. Merci encore.
Merci.
Et on va
vous
continuer cette conversation avec Gesine Weber. Je poursuis avec vous justement sur cette question des dépendances relatives. Où est-ce qu'il faut investir massivement, prioritairement en Europe? Est-ce que c'est d'abord dans les drones? Est-ce que c'est d'abord dans l'intelligence artificielle et dans l'aérien, parce que c'est là que nos dépendances sont les plus fortes? Ou bien il faut investir partout et dans le temps?
Alors, vous avez déjà mentionné deux domaines qui sont extrêmement importants. Donc, à la fois l'intelligence artificielle et tout ce qui est cyber, mm-hmm. et tout ça, simplement parce que ça n'a pas été prioritaire pour les Européens d'ici là. Mais la grande priorité pour les Européens, et absolument la défense aérienne et antimissile, parce que c'est là où ils sont extrêmement dépendants de la protection par les États-Unis. Et vu le trajectoire stratégique des États-Unis, c'est un bon moment pour les Européens d'y investir plus tôt que tard.
Je vais vous faire entendre une voix concernée au premier plan par ces affaires. Il s'appelle Éric Trappier. Il est PDG de Dassault Aviation et s'exprimait pour Boursorama le 5 mars dernier.
Aujourd'hui, on a une industrie dans le naval, on a une industrie dans l'aviation de combat et dans les armes. C'est bien lié à cette dissuasion nucléaire. C'est elle qui a été le moteur et la locomotive du fait qu'on ait aujourd'hui ces compétences. Et en plus, ça alimente le paysage économique français, puisque l'industrie de défense se porte bien, et donc ça permet aussi l'emploi, ça permet les technologies, le savoir-faire, et donc c'est une bonne chose. Donc si le modèle de l'Europe demain, c'est de faire un petit peu ce que la France a fait depuis plus de 50 ans, c'est une bonne chose. Si c'est pour nous noyer dans quelque chose où on est dépendant, vous voyez, encore récemment, on parlait de mettre des fonds européens avec une ouverture vers des programmes non européens. J'espère que tout ça est révolu.
Gesine Weber, de quoi parle la Commission européenne lorsqu'elle dit vouloir faire émerger un marché unique européen de la défense?
Donc l'idée de tout cela est évidemment de renforcer la base industrielle et technologique européenne et de européaniser tout ce qui est les questions de l'industrie de défense. Par exemple, par des procédures communes d'acquisition, par les achats communs.
En centralisant les achats notamment.
Oui, à la fois, mais pas que. C'est aussi vraiment pour avoir des projets d'armement purement européens. On l'a par exemple dans la coopération structurée permanente d'ores et déjà. Et l'idée, c'est vraiment de donner un coup d'appui à l'industrie basé en Europe pour aussi réduire les dépendances stratégiques d'autres pays, parce que la plupart des systèmes utilisés par les Européens aujourd'hui sont quand même encore les systèmes américains.
Est-ce qu'il y aurait un intérêt, selon vous, un intérêt fort et véritable à organiser une spécialisation par pays? Par exemple, la question navale en Grande-Bretagne, la question de l'aviation en France, et mettons par exemple les chars en Italie, je dis ça au hasard, mais en tout cas, cette idée de spécialisation, est-ce qu'elle fait son chemin? Est-ce qu'elle a du sens même?
Alors, d'un point de vue purement économique et purement stratégique, C'est une stratégie qui a vraiment qui s'est prouvée assez efficace dans énormément d'autres domaines économiques. Donc, d'un point de vue purement économique, ça fait du sens. Est-ce que c'est faisable? Absolument pas. Parce que la défense est un domaine très sensible où les États membres, en général, essayent de garder le plus de marge de manœuvre possible dans les capitales européennes au lieu de d'abandonner un secteur. Parce que la spécialisation, surtout dans le domaine de la défense, nécessite énormément de confiance dans les partenaires. Donc, si vous êtes un pays comme la France et vous abandonnez, par exemple, disons, la marine et la défense aérienne, il faut quand même faire confiance aux autres Européens qui sont capables et volontaires de l'assurer. Et la même chose est évidemment vraie aussi si vous êtes un pays balte ou la Pologne. Et je pense aujourd'hui, les Européens ne sont pas encore à ce niveau de confiance que ce soit politiquement possible. Mais d'un point de vue purement économique, ce serait la bonne solution.
La grande actualité militaire, c'est également la publication du livre blanc européen. Il faut nous dire, je sais que vous l'avez parcouru, même lu en détail, qu'est-ce que l'on trouve dans ce livre blanc européen? Est-ce que cela résonne avec tout ce que l'on s'est dit ici, hein? On se rappelle le mot d'ordre, les États membres doivent dépenser plus, mieux et européen.
Oui, c'est tout à fait la grande ligne que donne ce livre blanc, qui n'était pas très très surprenant. Mais je pense que c'est extrêmement important de voir ce livre blanc un peu dans le contexte de ce que c'est. C'est un livre blanc, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une feuille de route, ça donne les grandes lignes, ça donne quelques idées, mais il y a très peu d'initiatives concrètes. Donc, il y a par exemple la volonté de lancer un dialogue avec l'industrie de défense, ce qui est tellement important, mais il y a très peu d'échéances, très peu de mesures concrètes et tout cela. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, la stratégie pour armer et soutenir l'Ukraine est incluse dans ce livre blanc, mais à part de quelques détails sur le soutien, par exemple pour la munition, ce livre blanc reste extrêmement limité. Donc ça donne un peu en quelque sorte une esquisse des grandes lignes, mais sur le fond, ça reste quand même assez vague parce que je rappelle qu'un livre blanc est quelque chose, dans le contexte des institutions européennes, qui est publié par la Commission. Et la Commission a une compétence, par exemple, sur les questions du marché intérieur, sur les questions de commerce, mais absolument pas dans les questions de sécurité et défense. Donc, pour que quoi que ce soit puisse avancer dans ce domaine, il faut que le Conseil européen, que le Conseil, donne son feu vert. Et cela est la représentation des pays membres qui doivent d'ailleurs décider à l'unanimité.
Je voudrais vous faire entendre la voix du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Il s'exprimait au sujet de la journée d'appel et du fameux service militaire. On voit ce qu'il en pense.
C'est une journée qui est en fait la dernière vraie obligation. Hein. Vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des problèmes, vous ne pouvez pas passer votre permis de conduire, vous ne pouvez pas passer le baccalauréat, le brevet, que sais-je. Bon, enfin, objectivement, aujourd'hui, c'est devenu une journée un peu fourre-tout. Donc, on ne dérange pas les gens une journée si ce n'est pas utile. Il faut qu'à la fin de la journée, les gens se disent « ça a été utile ». Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire en sorte qu'elle redevienne utile. Déjà par la cohésion, lever des couleurs dans lesquelles on va rebrasser tout le monde et tout le monde va se retrouver face au mât et les couleurs, qui est un moment autour de l'armement. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'avec les jeux vidéo, il y a désormais un rapport à l'arme, qui est un rapport complètement virtuel. Or, qui mieux qu'un militaire pour rappeler à quel point c'est pas un jouet, c'est un sujet qui est absolument clé.
On sent ce débat du service militaire, de la journée d'appel qui revient peu à peu dans le débat public. Édouard Philippe, lui-même, lors du congrès de Lille, du congrès Horizon à Lille, le 17 mars dernier, s'est dit plaider pour un service militaire volontaire. Qu'est-ce que vous pensez, vous-même, Gesine Weber, de l'utilité d'un tel service militaire? Et au-delà, est-ce que les populations peuvent être sensibles, touchées à cette question militaire? De quelle façon, justement, les toucher directement?
Donc, je pense que ce sont deux questions un peu différentes. Déjà, est-ce qu'un service militaire peut être utile? Ça dépend un peu, évidemment, pas seulement des quelques mois que les personnes vont passer en sein du service militaire, mais surtout ce qui se passe après. Si les armées sont attractives en tant qu'employeur, ça peut tout à fait être un moyen de recrutement. mais il faut que les conditions soient réunies pour cela. Et d'ailleurs aussi, je pense que c'est important de vraiment aussi mettre l'accent pour notre service militaire sur la sensibilisation pour les sur les enjeux et pas se, et vraiment aussi pour les enjeux stratégiques et pas seulement sur les enjeux purement militaires.
Paradoxalement, je me permets de vous couper. Paradoxalement, on sait bien que l'armée française aujourd'hui ne veut pas de ce service militaire, ne souhaite pas l'organiser, dit ne pas avoir le temps, les moyens, les ressources, et que ce n'est pas sa fonction même de recréer un tel service militaire. Est-ce que là aussi, vous trouvez cela justifié comme prise de position du point de vue des armées ?
En effet, je pense, on voit dans l'armée française que le recrutement militaire peut très bien fonctionner sans un service militaire obligatoire, voire volontaire. Donc, on voit au cours des différents pays européens et aussi dans le, sur l'histoire qu'il y a des différents modèles qui peuvent fonctionner bien ou moyennement bien. Tout cela est aussi très lié aux cultures stratégiques parce que si vous comparez par exemple le modèle français qui a fonctionné sans service militaire au cours des dernières années, au système allemand qui a arrêté le service militaire au début des années 2010. Mm-hmm. Pour l'Allemagne, c'était difficile de relancer cette dynamique de recrutement parce que vous avez eu énormément de gens qui ont passé le baccalauréat qui vont plus naturellement entrer les armées. En France, l'armée a une toute autre position dans la société. Donc là, vous avez quand même une certaine chaîne de recrutement qui se fait beaucoup plus naturellement que dans les pays qui ont une culture stratégique qui met moins l'accent sur l'importance de l'armée.
Sur ma question initiale, est-ce que vous constatez aujourd'hui que l'armée, les armées européennes tentent de retisser un lien avec les populations ?
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est aussi une chose qu'on ne voit pas seulement parmi les armées, mais aussi parmi les hommes et femmes politiques en Europe. Donc, même si il y a 5 ans, on parlait très peu des questions de sécurité et défense, on parlait très peu des faits militaires, aujourd'hui, si vous interrogez les citoyens dans la rue, ils peuvent vous citer le modèle de char ou d'avion de combat. Et évidemment, c'est aussi tout en vue de la menace russe. Du fait que la guerre est de retour sur le sol européen, mais il y a de plus en plus de conscience dans le public et je pense que c'est une base de discussion dont nous avons absolument besoin vu des défis de sécurité auxquels l'Europe fait face.
Merci beaucoup Gesine Weber de cet échange. Je rappelle que vous êtes chercheuse en sécurité et défense au think tank indépendant The German Marshall Fund of the United States. C'est à Paris. Je rappelle aussi que vous avez fait paraître dans la revue Le Grand Continent une série d'articles passionnant justement sur ces questions que l'on vient d'aborder aujourd'hui. Merci encore d'être venu ce soir à Question du Soir.